RMC jusqu'à 18h. Intégral Tour, Christophe Sessieux.
Bonjour à tous, bienvenue sur la route du Tour de France qui fait escale aujourd'hui en Auvergne, au Massif Central, le département du Cantal, pour cette première étape de montagne dès le cinquième jour de course. Et oui, il va se passer sans doute beaucoup de choses aujourd'hui, on l'espère évidemment, pour cette cinquième étape qui conduit donc le peloton de Limoges jusqu'à la station de ski du Lioran, avec pas mal de difficultés dont on va vous parler dans un instant. On espère qu'il va se passer des choses. Il fait grand beau aujourd'hui sur les routes du Tour et il se passe déjà pas mal de choses. On va tout d'abord vous présenter l'équipe parce qu'ils sont là, venus très tôt. Ils sont déjà dans les ordinateurs en train de regarder les écarts déjà pris par les hommes de tête. Cyril Guimard, par exemple, il est là, il sait tout et il appuie sur le bon bouton. Voilà une bonne chose. On rentre dans la montagne.
Il est chaud.
On rentre dans le vif du sujet. Salut Cyril.
Bonjour. Bonjour à tous.
Prêt pour la montagne, Cyril?
Oui, je suis prêt pour la montagne. Oui, non, mais j'ai aucun souci avec la montagne.
Eh ben, tant mieux. Jérôme Pinault.
Surtout les descentes.
Jérôme Pinault adorait la montagne, lui aussi, lorsqu'il était coureur.
Ah, ça dépendait des années. Il y a des fois, elle m'a pas aimé. Moi, je l'ai aimé tous les ans, mais elle, des fois, elle m'a pas aimé. Elle m'a puni parfois.
Tu préférais quand ça montait ou quand ça descendait?
Ah, je préférais quand ça montait quand même. Mais parfois, ouais, j'étais loin derrière. Mais j'ai souvenir des souvenirs sur ces routes-là et c'est pas forcément des bons souvenirs.
Plutôt,
c'est très difficile.
Plutôt échappé ou plutôt groupé tôt dans les étapes de montagne?
Soit l'un, soit l'autre.
J'ai parfois fait
les deux.
T'as parfois fait les deux.
C'est ce qu'on appelle échappé boomerang. Tu pars et tu reviens.
Fred Adam, lui, a escaladé, mais en cyclotouriste, les monts du Cantal.
En touriste.
Il y a de ça quelques années.
Bien sûr.
On s'est régalé tout à l'heure sur la route.
C'est ça vrai, reste néanmoins un grand grimpeur. Hein.
Ah oui. Mais pas seulement sur la route du Tour. Ça va, Fred?
Ça va très bien, merci. Bonjour à tous.
Et puis Georges Quirino est sur la moto RMC et on va tout de suite prendre la température. Eh bien oui, elle est bonne la température. Salut Georges.
Salut Christophe, bonjour à tous. Oui, la température qui est élevée aujourd'hui, beaucoup plus élevée que ce qu'on a eu au grand départ en Normandie, évidemment. 28 degrés, là, nous affiche le thermomètre. La température tellement élevée parfois, le soleil qui tape tellement qu'on a vu parfois sur les routes du Cantal, nous trouvons, quelques parties de la chaussée fondre parfois. Le goudron, ça a pu être dangereux dans certaines descentes. On est dans un décor de moyenne montagne, clairement. Maintenant, on a vu des forêts de sapins autour de nous, ça sent bon la montagne désormais pour les coureurs qui voient devant eux et autour d'eux les monts du Cantal.
Et on est passé soudainement en 3 jours du plein automne, de la Toussaint en plein été aujourd'hui sur ces routes du Massif Central. Fred, il reste 65 km 800 et il s'est passé déjà beaucoup de choses sur la route du Tour, le premier top course.
Avec 3 hommes en tête, effectivement, des coureurs qui s'entendent parfaitement à 65 km de l'arrivée. Le plus dur reste à faire dans cette longue étape entre Limoges et le Lioran. Grand soleil et grande difficulté aujourd'hui avec une succession de cols de 3e et 2e catégorie dans le final de cette étape. C'est un chantier en perspective. 3 hommes en tête, l'Ukrainien Andrei Grivko et les Belges Thomas De Gendt et Greg Van Avermaet. Van Avermaet qui s'était imposé, on s'en souvient, l'an passé à Rodez au terme d'un sprint interminable et hyper spectaculaire face à Peter Sagan. Ces trois-là comptent 2 minutes 40 secondes d'avance sur une contre-attaque où l'on trouve 6 coureurs dont les 3 Français, Romain Sicard, Cyril Gauthier et Florian Vachon. Le peloton, lui, à 65 km de l'arrivée, est relégué à 15 minutes. Un peloton emmené par les Sky de Christopher Froome devant les Tinkoff du maillot jaune Peter Sagan et d'Alberto Contador. Le Tour change de visage aujourd'hui.
15 minutes d'avance sur le peloton. Est-ce qu'on peut dire déjà, Jérôme, que le vainqueur de l'étape du jour se trouve dans les 3 hommes échappés?
Dans les 3 ou dans les 6 poursuivants, c'est possible. C'est possible. En tout cas, on ne sent pas derrière de la part des équipes de Valverde, l'équipe Movistar et de Quintana, ou l'équipe Sky, une grosse envie d'aller chercher ses échappés. En revanche, il va falloir quand même rouler assez fort pour ces équipes-là, parce que devant, il y a des bons coureurs et des coureurs qui sont susceptibles de jouer à quelque chose au général. Donc il y a un petit danger en la personne de Serge Pauwels, de Romain Sicard pour le classement général. Donc on va revenir très certainement à moins de 15 minutes, ça c'est sûr. sûr. En revanche, revenir sur la tête de la course, je ne pense pas. Je pense que cette échappée va effectivement se disputer la victoire d'étape aujourd'hui.
Ouais, parce que pour l'instant, Fred, eh bien c'est Greg Van Avermaet qui prendrait le maillot jaune si les choses devaient en rester là, mais ça va bouger évidemment d'ici l'arrivée tout à l'heure au Luron. Hein.
Oui, Van Avermaet qui était ce matin 20e du classement général à 18 secondes de Peter Sagan. Tout cela n'est que provisoire parce qu'effectivement, on aura l'occasion de le souligner dans quelques instants. Le menu proposé aujourd'hui aux 198 coureurs du peloton, car il n'y a eu aucun abandon et c'est à signaler depuis le départ de Normandie. Cinquième étape et que des rescapés, aucun abandon. Le menu proposé aujourd'hui est une sévère transition avec les étapes de plaine qu'on a connues jusqu'à maintenant. Ça va faire beaucoup de dégâts. Mettez la chaleur, la première chaleur du tour par-dessus et à mon avis, ce soir, il y aura des morts, comme on dit dans le peloton.
Alors avant d'attaquer le menu par le hors-d'œuvre évidemment, puis ensuite le plat de résistance, il y aura pas mal de plats de résistance. On va tout de suite retourner sur la moto RMC puisque c'est l'heure de la carte postale du jour.
Partout en France, ERDF devient Enedis, la carte postale des régions avec Enedis, l'électricité en réseau.
Georges Quirino et Marc Combes qui ont le privilège de voir les routes du Tour sur leur moto en t-shirt ou presque. Alors qu'allons-nous voir de beau? Qu'avez-vous vu de beau ou qu'allez-vous voir de beau, messieurs?
Eh bien, on commence à le voir en tous les cas à l'horizon. Je parle d'un vieux monsieur. Je parle pas de Cyril Guimard avec tout le respect que j'ai pour lui, évidemment. Ouh, non, non, il a lui à 6,5 millions d'années. C'est un volcan, c'est le Puy-Marie, donc un sommet des monts du Cantal. Le Puy-Marie, on le reconnaît facilement parce qu'il a en fait il ressemble un peu à une pyramide comme le Fuji, on peut voir au Japon, notamment comme le druide. Non, je sais pas, vous savez pas, en fait dans une certaine position il peut ressembler à une pyramide. En tout cas lui il culmine à 1783 mètres d'altitude, un peu plus haut que le druide en tous les cas. Le paysage est exceptionnel, en fait ce volcan est voilà formé avec des épisodes volcaniques, des coulées de lave qui lui ont donné en fait cette forme là, voilà cette forme de pyramide. C'est le plus grand volcan d'Europe, c'est l'endroit le plus visité d'Auvergne surtout, et en fait on peut y accéder que à partir du Pas de Pérol, qui sera une des ascensions que l'on va avoir d'ici une trentaine de kilomètres. En fait depuis le Pas de Pérol vous marchez pendant une heure si vous êtes courageux et vous arrivez eh bien au niveau du Puy-Marie. Le Pas de Pérol que l'on va franchir dans 30 kilomètres, cette ascension, ce sera la dixième fois sur le Tour de France que l'on va passer cette difficulté. Et alors la dernière fois c'était en 2011. Moi à titre personnel c'est peut-être l'étape qui m'a le plus marqué sur la moto. C'est un certain Thomas Voeckler qui était passé en tête en 2011 dans une étape dantesque. C'était la huitième étape entre Issoire et Saint-Flour. C'est dans cette étape, souvenez-vous, dans l'échappée où se trouvait Thomas Voeckler, que Johnny Hoegaerland avait été envoyé dans les barbelés à droite par une voiture suiveuse. Et c'est dans cette étape-là, à l'issue de cette étape-là, que Thomas Voeckler avait pris le maillot jaune pour sa fabuleuse épopée en jaune. Il avait enlevé la tunique dorée seulement à deux étapes de l'arrivée. Donc c'est des paysages qui nous rappellent forcément de grands souvenirs.
Et oui, ça avait été le début de du deuxième épisode de la Voeckler-Mania. Il y avait eu un épisode un peu plus tôt, quelques années plus
2004,
tôt,
mais effectivement, le premier épisode.
2004, tu étais
j'étais son équipier
lui.
Et on avait déjà on était déjà passé par cette région du Cantal. On avait escaladé aussi le Pas de Pérol, le Puy-Marie, mais on avait fini également à Saint-Flour cette année-là. Et c'est Richard Virenque qui s'était imposé cette année-là à Saint-Flour.
Fred, on a repéré la route tout à l'heure. C'est vrai que ce Puy-Marie est magnifique, un paysage superbe. Hein, pour d'ailleurs tout au long de l'étape, ce ne sont que des paysages superbes. Mais c'est peut-être pas l'ascension la plus difficile du jour, hein, le Puy-Marie.
Non, mais c'est sublime. Le Puy-Marie quand même reste particulièrement pentu, surtout escaladé par ce côté après la descente du col de Néron, qui lui est un long faux plat montant avec une vue totalement vertigineuse et magnifique à droite. Le Puy-Marie qui, c'est vrai, fait beaucoup de dégâts. C'est une pente très raide, pas bien longue, 5 400 km, mais dans sa partie finale, dans sa deuxième moitié, c'est supérieur à 10%, des passages à 12-14%. Notez qu'à l'instant, à 64 km de l'arrivée pour le peloton, c'est-à-dire à près de 15 minutes derrière les échappés du jour, on vous le rappelle, eh bien le peloton vient de franchir le sprint intermédiaire et les sprinteurs du peloton qui n'ont rien à gagner aujourd'hui dans ce final très très escarpé, le sprint a été remporté par un certain Brian Coquard. Coquard qui n'est pas abattu, semble-t-il, après sa deuxième place d'hier, on le rappelle, pour au total 28 mm, hein, 2,8 cm. Coquard qui, à défaut de victoire d'étape, a peut-être ciblé le maillot vert sur les Champs-Élysées. Il a parfaitement le profil pour endosser le maillot de leader du classement par points.
Et oui, on va revenir d'ailleurs, tenez, en écoutant le direct d'hier, l'arrivée de cette quatrième étape et évidemment la déception pour Brian Coquard et pour tous les suiveurs, notamment notre ami Jérôme Pinault qui, on vous le rappelle, est très proche de Brian Coquard. C'était donc hier, précédemment, dans l'Intégral Tour.
RMC, précédemment dans l'Intégral Tour de France.
Avec quatre coureurs à l'avant de cette quatrième étape, 237 km 500, et les quatre hommes de tête s'appellent Olivier Naissen, un Belge, Markel Irizar, un Espagnol, l'Allemand Andrea Schillinger et un Français, Alexis Goujard, qui découvre le Tour de France sous le maillot de l'équipe AG2R1 mondiale.
Ils étaient quatre, ils ne sont plus que trois, malheureusement. Le Français a pété.
Et oui, c'est Alexis Goujard. Il évolue à quelques mètres, même centaines de mètres derrière eux. Il a déjà lâché plus d'une dizaine de secondes derrière ses anciens compagnons d'échappée. Donc, il ne fait plus partie du groupe de tête.
Jérôme, c'est ni trop dur, ni trop facile, ni trop pentu, ni trop plat. Est-ce que c'est pas le jour ou jamais pour Brian Coquard sur ce Tour de France?
Eh oui, assurément. Il est venu notamment il y a 4 semaines de ça repérer cette étape-là. Et je pense que c'est celle-ci qui lui correspond le mieux. On l'a vu, il a mis ses gars à l'avant. Même Thomas Vauclair met la main à la patte. Ça veut dire que le coq est motivé aujourd'hui. Le coq est sur la voie royale, on va dire.
Apparemment, Marcel Kittel a retrouvé des jambes après être passé au travers un petit peu sur les trois premières étapes. André Greipel en force lance au milieu de la route à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Mais André Greipel va buter sur Alexander Kristoff qui fête son anniversaire aujourd'hui. Brian Coquard sur la gauche de la route est en train de déborder. Alexander Kristoff, Brian Coquard qui résiste et qui va remporter l'étape. Victoire très probablement du coureur français de la formation Direct Energy.
C'est terriblement serré. C'est encore plus serré qu'hier.
Victoire de Marcel Kittel, a priori
provisoire.
On attend le développement de la photo finish. A priori, le podium est celui-ci. Kittel devant Coquard et Sagan. C'est vraiment la technologie qui a parlé, parce que là, il n'y a même pas un boyau entre les deux coureurs.
RMC Tour de France 2016.
Et oui, 28 mm d'écart du coup avec Jérôme, on s'est un petit peu emballé. Fred est resté évidemment la tête froide et il a fallu attendre quelques minutes pour avoir le verdict de cette victoire de Marcel Kittel. Mais c'est passé tellement près, Cyril, tellement près, 28 mm. Hein. Hier, on avait du mal à compter, à mesurer cet écart. On le connaît depuis ce matin, 28 mm, c'est tellement peu.
Est-ce que cela a beaucoup d'importance aujourd'hui?
Oui, pour Brian Coquard, ça a de l'importance, je pense.
Oui, non, mais c'est fini aujourd'hui.
Oui,
il a fait deux.
Oui, mais on parle, on revient. Là, si tu veux, je t'explique le truc. On revient sur l'étape d'hier avant de parler de l'étape du jour.
J'avais compris.
Voilà. Donc ça a de l'importance.
J'avais compris, mais le seul qui était resté froid hier, effectivement, c'était Frédéric, parce que même moi, j'y suis quand même allé brillamment. Bruyamment, on va dire. Bon, on s'est tous trompés. Oui, non. Alors, effectivement, 28 mm, c'est peu. Sauf que 28 mm ou 20 mètres, c'est le même résultat. Vous verrez dans 20 ans, quand vous regarderez le classement, on ne mettra pas les 28 mm. Oui. On dira premier Kittel.
Est-ce que tu as eu Brian ce matin, Jérôme?
Je l'ai vu,
digéré cette déception.
Il est reparti comme en 40. Ça y est, c'est passé, c'est derrière lui. On a parlé maillot vert gentiment ce matin. Je l'ai vu il y a quelques kilomètres aller chercher des points. C'est bon signe. Il a un petit peu ça dans sa tête. Il dit que il reste 2-3 étapes pour lui. Il a plutôt planifié un bon sprint à Montauban, mais qui ne correspond pas à ses qualités. Un bon sprint à Montpellier, mais il y a une étape dont on a parlé tous les deux, c'est celle de Revel, qui arrive après un premier col très long. Et puis l'étape de Revel est toujours difficile, avec une troisième catégorie dans le final. Donc on va voir ce que va faire le coq jusqu'à la fin du tour. Mais en tout cas, il est remobilisé, il n'y a aucun souci, c'est oublié, c'est derrière lui.
Voilà, en tous les cas, pour le coq aujourd'hui, c'est une journée quasiment de repos, même si on l'a vu, Fred le disait il y a quelques instants, enfin journée de repos.
Ça va être compliqué d'être en repos aujourd'hui. Parce que tous les coureurs vont devoir s'accrocher, on le sait. Les cols ne sont pas très longs, mais sont très raides. Et c'est pas le genre d'étape où un groupetto va se former très vite et très tôt. Quand ce sont des longs cols, on sait qu'on peut pas passer, mais certains aujourd'hui vont essayer de s'accrocher, d'aller un peu plus loin, et ces étapes-là sont souvent très difficiles pour du premier au dernier coureur.
En tous les cas, on attend vos propositions sur le hashtag RMC Live pour nous donner le nom de l'épisode du jour, de l'étape du jour qui va donc conduire le peloton jusqu'au Lioran. On va voir ça dans quelques instants. J'ai déjà quelques propositions et toute la Dream Team réfléchit évidemment pour trouver le titre le plus adéquat à cette cinquième étape du Tour de France. C'est également au programme cet après-midi Wimbledon évidemment qui se poursuit avec les quarts de finale du tournoi du Grand Chelem. Nous sommes en direct depuis le Center Court avec Eric Salio, car il y a de beaux matchs en perspective, notamment pour nos Français Lucas Pouillet et Joe Wilfried Tsonga qui ne sont pas encore sur le cours. Bonjour Eric.
Bonjour à tous. Effectivement, les deux premiers quarts de finale du haut de tableau ont débuté maintenant depuis un peu plus d'une heure. Alors sur le Center Court, c'est Roger Federer qui affronte Marin Cilic, et petite surprise si pour les fans du Suisse, c'est Cilic qui mène la danse 7-6, 5-4, et le Croate est à deux points de mener 2-7-0 puisqu'il est au service. Federer qui fait un peu de peine, faut bien le dire, il a beaucoup de mal à lire le service du Croate, et il va peut-être se retrouver dans une position presque désespérée dans quelques secondes. Sur le court voisin, Sam Querrey Raonic, 1-7-0 pour le Canadien, 6-4, 6-5 dans le deuxième pour Raonic, mais c'est Querrey qui est au service. Donc vous l'avez compris, les Français vont devoir un petit peu attendre dans le vestiaire. Et puis Christophe, si tu le permets, je voudrais quand même parler de Marion Bartoli parce qu'elle nous inquiète. Marion. Franchement, elle a été retirée du tableau du double dames des légendes parce que les ordinateurs se sont aperçus qu'elle était d'une maigreur affolante et ils n'ont pas voulu prendre le moindre risque. C'est le service médical qui a pris cette décision, qui a dit à Marion, écoute, c'est pas raisonnable d'aller sur le cours dans cet état-là. C'est vrai qu'elle a perdu beaucoup de kilos. Et là, c'est un nouveau signal d'alarme pour Marion Bartoli. On espère qu'elle va remonter la pente, mais j'ai discuté avec Patrick Moitovou qui m'a dit que finalement c'est peut-être une bonne chose que le tournoi les retirait du tournoi. Donc voilà.
Ouais, c'est incroyable. Marion Bartoli qui, durant toute sa carrière de joueuse de tennis, avait plutôt quelques kilos supplémentaires. Ouais. Et depuis qu'elle a arrêté, elle est complètement dans l'excès inverse. Bon, on espère que c'est pas trop grave et qu'elle pourra se remplumer quelque peu. Merci Eric, à tout à l'heure.
Oui.
On l'espère évidemment pour cette grande joueuse qui, on le rappelle, a remporté Wimbledon il y a de cela quelques années avant de prendre sa retraite. 56 km 800 de l'arrivée, Fred, un top course rapide avant de faire une petite pause fraîcheur.
Toujours trois hommes en tête à 57 km de l'arrivée. Greg Van Avermaet, son compatriote belge Thomas De Gendt, l'Ukrainien Andrei Grivko, 6 contre-attaquants dont les trois Français Romain Sicard, Cyril Gauthier et Florian Vachon à 2 minutes 30 et le peloton à 14 minutes 45. On entre bientôt dans le menu très très corsé de cette fin d'étape dans le Massif Central.
Parfait, il est 15h24, vous êtes sur RMC l'intégral tour, 56 km encore à parcourir, 14 minutes 43 d'avance, mais derrière il va sans doute se passer des choses, en tous les cas, on l'espère, à tout de suite.
Tous les chemins mènent à Rome, dit le vieil adage français. Non, tous les chemins mènent à Paris.
RMC, jusqu'à 18h, intégral tour, Christophe Cessieux.
On est encore loin de l'arrivée à Paris. Oui, encore quelques kilomètres quand même avant d'arriver le 24 juillet sur les Champs-Élysées pour le final de ce Tour de France 2016. Pour l'instant, nous en sommes à la cinquième étape de ce tour. Première étape de montagne. C'est de la moyenne montagne, mais ça va tourner dans tous les sens, monter et descendre entre Limoges et le Lioran. Il reste 55 kilomètres encore à parcourir. Le top course avec Fred.
Avec trois hommes en tête qui sont des hommes expérimentés, hein. Thomas De Gendt, le Belge, 29 ans. Son compatriote Greg Van Avermaet, attention à lui, c'est le leader virtuel du classement général puisqu'il pointait ce matin à 18 secondes du maillot jaune Peter Sagan. Et l'Ukrainien Andrei Grivko, il leur reste à ces trois-là 55 km et donc 4 cols à franchir. Néron, puis Marie, le col du Pertus et le col de Foncerre avant l'arrivée au Lioran. 2 minutes 45 d'avance pour ces trois-là sur 6 contre-attaquants dont les Français Sicard, Gauthier et Vachon. Le peloton maillot jaune et lui pointé à plus de 14 minutes. Il flâne, il contrôle avant le début des hostilités dans l'école.
Et nous allons retrouver la moto RMC Georges Quirino accompagné de son fidèle Marc Combes qui sont à l'avant de la course avec les trois hommes de tête. Pour l'instant, tout le monde s'entend très bien, hein, Georges.
Écuries qui s'entendent très bien, notamment les deux Belges, Greg Van Avermaet et Thomas Degen, que l'on a vu discuter ensemble à plusieurs reprises dans cette échappée. Ça monte, ça descend, c'est une succession de petites montées, de petites descentes, et à chaque traversée de localités, on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde présent. On va peut-être essayer de se rapprocher de la voiture BMC pour aller voir Valerio Piva, le directeur sportif de la formation. Dans une minute, il nous dit Valerio, si. Qu'est-ce qu'il nous dit dans une minute, Valerio, il est en train de parler avec son coureur, évidemment. C'est sympa, on va essayer de se rapprocher de lui dans quelques instants, parce que pour l'instant, il est dans la voiture du maillot jaune virtuel. Voilà, on va se rapprocher. C'est bon, le coup de fil est terminé. Bonjour Valerio, en français, évidemment, si c'est possible. Le maillot jaune et la victoire d'étape, c'est un objectif que vous êtes fixé ce matin avec Greg Van Avermaet.
C'était difficile ce matin de prévoir un scénario pareil, donc bien sûr Greg était un des coureurs qui devait rentrer dans l'échappée, il l'a fait et maintenant il est dans la position de pouvoir gagner et aussi mettre le maillot. On verra, on est loin encore de l'arrivée, le groupe derrière nous est encore dangereux et encore plus que 60 km, donc c'est pas fini.
C'est un profil d'étape qui lui convient parfaitement à Greg.
Avec les... Deuxième catégorie, c'est très dur, donc on a reconnu le parcours le mois passé, donc c'est pas un grimpeur, mais il se défend bien, on verra, donc avec les trois ici devant, je pense qu'il peut passer avec eux.
Et derrière, pour votre leader au classement général, Richie Porte, c'est une journée où il faudra être attentif aujourd'hui.
Bien sûr, vous l'avez vu, Sky a pris la tête, donc il faut faire attention toujours, spécialement dans des étapes pareilles.
Il a perdu du temps au début, dans quel état d'esprit il est, Richie Porte?
Il a eu la malchance, naturellement, mais le moral est là et sa condition est bonne. Maintenant, il faut reprendre du terrain dans chaque occasion.
Super, merci beaucoup Valerio Piva, donc directeur sportif italien qui parle un français parfait, donc de cette formation BMC, derrière Christophe et Fred, derrière un certain Greg Van Avermaet qui est dans cette échappée.
Oh, tu as fait des progrès en flamand, tu es incroyable, merci Georges. À tout à l'heure, Valerio le disait il y a quelques instants, effectivement l'équipe Sky de Chris Froome a pris la direction des opérations en tête de peloton. Fred, ce sera sans doute l'une des images vedettes de ce Tour de France, on risque de la voir à plusieurs reprises d'ici l'arrivée à Paris dans 3 semaines. Hein.
Bien sûr, l'équipe Sky parfaitement habituée à assumer le rôle, le statut de favori d'équipe qui protège un acquis. Pour l'instant, l'acquis est à venir puisque Christopher Froome n'a pas encore le maillot jaune sur le dos, mais c'est bien cela le plan chez Sky, ne pas laisser la main aux autres. Les patrons ont le maillot noir et bleu, les patrons du peloton. Personne d'autre ne doit être en mesure de tenir la barre. C'est une question de fierté, de suprématie, peut-être un peu d'intox envers la concurrence. On n'en est qu'à la 5e étape, mais les coéquipiers de Christopher Froome veulent effectivement montrer que leur Kényan sud-africain britannique, Christopher Froome, double vainqueur du Tour, est bel et bien là sur ce Tour pour réaliser la passe de 3. On est à 53 km de l'arrivée et les Sky évoluent à 14 minutes tout de même de la tête de course, sous contrôle. Vous parlez d'une arrivée dans le Massif Central en moyenne montagne, et dans moyenne montagne, il y a quand même montagne. On a effectué tous les cols de la journée en reconnaissance et c'est vraiment un terrain propice aux grandes manœuvres.
Eh bien, on va voir ça, on va voir s'il se passe des choses. On se posera la question dans quelques minutes avec nos confrères du Parisien, de savoir si on va assister à la première bagarre pour le classement général aujourd'hui. Voilà donc pour la situation de course. Voilà, on va se quitter quelques instants et revenir rapidement sur la route du Tour à 51 km 400 de l'arrivée au Lioran. À tout de suite.
Si un jour vous cherchez la fréquence d'RMC, ayez le réflexe 3216. Toutes les fréquences d'RMC sur simple appel.
Fred, le point complet de la course, donc à un petit peu plus de 50 km de l'arrivée. Désormais, il se passe beaucoup de choses. Il y a du monde un peu partout sur les routes du Massif Central.
Et la tête de course entame en ce moment l'ascension du Puy-Marie, 51 km de l'arrivée. 51 km de l'arrivée pour Andrei Grivko, l'Ukrainien de l'équipe Astana, le Belge Thomas Degen de la formation Lotto Soudal et Greg Van Avermaet, le Belge également, compatriote de Degen dans dans cette échappée. Le coureur de l'équipe BMC, spécialiste des classiques, excellent puncher. Est-ce qu'il passera la montagne aujourd'hui? Ce trio de tête compte 2 minutes 30 d'avance sur 6 contre-attaquants qui sont en fait leurs anciens compagnons d'échappée. 6 contre-attaquants parmi lesquels figurent 3 Français, Romain Sicard chez Direct Energy, Cyril Gauthier chez AG2R La Mondiale et Florian Vachon, le coureur de l'équipe Fortuneo Vital Concept. Le peloton emmené par les Sky de Christopher Froome pointe lui à 13 minutes 47. On n'est pas encore dans le dur, on n'est pas encore dans les cols et en particulier dans le Puy-Marie classé en deuxième catégorie. 51 km de l'arrivée. C'est le début du dur, Jérôme.
Oui, c'est le début du dur et le danger pour ces trois coureurs-là ne vient pas du peloton des Sky, mais bel et bien du groupe de poursuivants avec le Polonais Machka, le Belge Serge Pauwels et le Français Romain Sicard qui sont de redoutables grimpeurs. 2 minutes 30, c'est pas assez pour ces trois rouleurs. Puncher certes, mais rouleur d'abord. Il va falloir creuser encore pour ces trois garçons parce qu'on arrive maintenant dans le morceau le plus difficile de la journée.
Et les grandes manœuvres vont peut-être commencer. On s'en est rendu compte il y a quelques instants avec la prise de contrôle en tête de peloton de l'équipe de Chris Froome. Les Cowboys de la Sky sont en tête de peloton et l'écart effectivement est en train de se réduire puisqu'il n'est plus désormais que de 13 minutes 44 pour les trois hommes de tête avec un groupe intercalé à un peu plus de 2 minutes 30.
On est au pied du col de Néron. Ensuite seulement ce sera le Puy-Marie.
Nous sommes à 7 km 100 du passage de la deuxième difficulté de la journée. Donc c'est le
col, c'est le col de Néron. Le col de Néron qui en fait, on va le dire hein, très clairement, est la première vraie difficulté de la journée dans cette cinquième étape longue de 216 km. La petite côte de Saint-Léonard de Noblat en début d'étape, c'était rien du tout à côté du menu particulièrement conséquent, riche. Proposé aux 198 coureurs du peloton pour le final de cette étape. 5 cols de 2e et 3e catégorie, dont le col de Néron dans lequel se trouve en ce moment le trio de tête composé de l'Ukrainien André Grifko et des Belges Thomas De Gendt et Greg Van Avermaet. 2 minutes 30 d'avance pour ces trois-là sur 6 contre-attaquants parmi lesquels Rafał Majka, Romain Sicard, Cyril Gauthier et Florian Vachon. Vachon, le peloton lui est pointé à 13 minutes 38. Il reste 48 km à parcourir.
Et bien tiens, j'ai des choses à vous faire gagner aujourd'hui. Un magnifique cadeau, un pack de 2 places VIP pour assister à la 12e étape du Tour de France qui aura lieu le 14 juillet prochain entre Montpellier et le Mont Ventoux. Au programme vol en hélicoptère, hébergement, dîner, c'est la totale. Attention, il faut être majeur pour y accéder. Pour jouer, c'est maintenant au 732-16. Il suffit d'envoyer le mot vélo. Bonne chance.
Sur la route du Tour de France en VIP avec Bosch Car Service, réseau de réparation et entretien auto multimarque.
Et puis vous savez, il y a d'autres événements qui se déroulent cet après-midi, Wimbledon, on y retournera tout à l'heure avec Eric Salio. Il y a également les championnats d'Europe d'athlétisme qui se déroulent à Amsterdam à quelques jours à peine du début des Jeux Olympiques. C'est une sorte de galop, de dernier galop d'entraînement. On va tout de suite aller faire un tour à Amsterdam pour y retrouver Nicolas Jamin, notre envoyé spécial. Salut Nico.
Salut Christophe, salut à tous.
On se demande ce que viennent faire ces championnats d'Europe si près des Jeux Olympiques tout de même. Hein.
Un mois à peine avant le début des Jeux, avant l'envol de la délégation française vers Rio, évidemment. Effectivement, c'est la question que se posait également du bout des lèvres la plupart des athlètes que j'ai rencontrés depuis deux jours avant que ça commence aujourd'hui. C'est une répétition générale, voilà ce qu'ils disent. Ne galvaudons pas quand même ces championnats d'Europe, mais c'est vrai que c'est moins important qu'il y a deux ans à Zurich, par exemple, parce que on a peur de se blesser, pour certains. Il y a eu beaucoup de forfaits. On le rappelle également, Christophe Lemaître, notamment, n'a pas voulu prendre de risques. Lui, gêné un petit peu, mais qui a voulu assurer sa présence à Rio. On vient ici pour observer la concurrence européenne et pour se jauger également sur sa mise en forme à un mois de Rio. Mais voilà, même le DTN Yannick Ganiyalouz ne met aucune forme de pression sur les athlètes. Il n'y a pas vraiment d'objectif de médaille, pardon. On parle d'une quinzaine seulement par rapport aux 23 il y a deux ans. C'est bien maigre.
Très bien. Le programme du jour, Nico, il y a du beau monde quand même sur les pistes aujourd'hui.
Alors il y en a un qui lui il s'en fout hein. JO, championnat d'Europe, championnat du monde, il veut l'or absolument. C'est Renaud Lavillenie qui n'a jamais perdu lors d'un championnat d'Europe. Saut à la perche, qualification pour lui avec Kevin Minaldo et Stanley Joseph, autre français en lice à 17h50. On attend également Mayedine Mekissi Benabad pour les séries du 3000 mètres steeple et puis René Lamotte, la révélation française sur 800 mètres. Vous dire que ce matin rapidement Mélina Robert Michon s'est qualifié pour la finale du disque, qualification également pour la finale de la longueur messieurs de qu'a fait Saint-Gomis. Quatrième saut, 7 mètres 93.
Merci Nico, on te retrouve évidemment tout au long de l'après-midi lorsqu'il se passera des choses sur les pistes du stade d'athlétisme d'Amsterdam. À tout à l'heure, 46 km 500, on revient sur la route du Tour de France. On fait un point Fred, parce qu'il se passe des choses évidemment depuis tout à l'heure avec du monde à tous les étages.
Trois hommes à l'avant de la course, effectivement, on a inversé les casques. C'est ma très grande faute sur ce coup-là. Andrei Grivko, l'Ukrainien de l'équipe Astana, ainsi que Greg Van Avermaet et Thomas De Gendt, les deux Belges, sont dans la portion finale. Un faux plat montant dans le col de Néron. C'est la première des cinq dernières difficultés de la journée. Une succession totalement indigeste. Grand ciel bleu et chaleur aujourd'hui sur la route du Tour. Ce trio tête compte 2 minutes 55 au dernier pointage sur six contre-attaquants, parmi lesquels le Polonais Machka, les Français Sicard, Gauthier et Vachon. 12 minutes 40 d'avance pour le trio tête sur le groupe maillot jaune. Vous le voyez, le peloton maillot jaune grappille, 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 mais a priori le vainqueur du jour se trouve d'ores et déjà à l'avant de la course échappée.
Voilà, la bagarre pour la victoire d'étape évidemment, mais y aura-t-il la bagarre pour le classement général, en tous les cas pour les favoris du classement général, pour ceux qui devraient s'imposer à Paris dans deux semaines et demie? Eh bien, c'est le thème de notre débat du jour avec nos confrères du Parisien, en l'occurrence aujourd'hui Lionel Chamy qui nous a rejoint dans notre beau petit camion. Salut Lionel.
Bonjour à tous. Bonjour à tous, vous allez bien?
Ouais, bah oui, pas mal, et toi? Alors est-ce que
chaudement,
oui, c'est bien, ça nous fait du bien de quitter l'hiver. Lionel, on le disait il y a quelques instants, grosse bagarre pour la victoire d'étape, ça c'est le quotidien, c'est le quotidien, mais allons-nous assister aujourd'hui, à ton avis, à la première bagarre pour le général? Est-ce que Chris Froome va montrer de quoi il est capable? Et est-ce que Quintana va réagir? Est-ce que Thibaut Pinot et Romain Bardet vont tenter des choses? Bref, est-ce que ça va être la première bagarre? Il y a quand même un beau terrain pour s'exprimer, hein.
Ouais, ouais, il y a certains beaux terrains, mais j'ai pas le sentiment qu'on va assister à une grande bagarre de la part des favoris que tu viens de citer, parce que il y a certes pas mal de difficultés, mais la montée finale me paraît pas complètement propice à une bagarre entre les tout grands favoris. Voilà. Alors, il y en a peut-être qui vont montrer des signes de faiblesse dans le pas de Pérol. On va prendre de premières infos sur l'état de chacun, sur le degré de récupération, par exemple, de Contador. Mais je vois mal tous ces gens se lancer d'aussi loin dans une offensive. Voilà.
Ouais. Un indice tout de même, hein, on le mentionne depuis le début du direct. Parmi les contre-attaquants derrière le trio tête Grivko, Van Avermaet et De Gendt, il y a Rafał Majka dans la contre-attaque de six coureurs. Rafał Majka qui est un équipier, peut-être même le leader de rechange au classement général.
Il est loin, Rafał Majka. Il a déjà perdu beaucoup de temps depuis le début du
Justement. Est-ce qu'il est pas là en appui de Contador? On sait que chez Tinkoff, on a l'habitude de faire ça, de mettre des pions à l'avant de la course. Ça semble un peu présomptueux, effectivement, ouais. comme l'a dit Lionel, mais le fait est que Majka est pour l'instant devant. Il a décidé de faire la course.
Ah, il faudra savoir si Contador a récupéré déjà, de savoir s'il est déjà dans un état pour l'attaquer. Moi, ça me semble quand même assez surprenant.
J'ai beaucoup de mal à croire que Contador puisse aujourd'hui essayer d'attaquer, de commencer sa remontée vers l'avant, plutôt à Contador de serrer les cale-pieds et d'essayer de pas perdre encore un peu de temps. Le terrain du jour est propice aux attaques, mais il y a les descentes aussi qu'il va bien falloir négocier, parce que c'est très technique, et quand on s'est gaufré deux fois en quatre jours, on n'est pas dans les meilleures dispositions pour faire des grandes descentes. Donc attention plutôt à Alberto de ne pas reperdre du temps encore une fois.
Et puis il y a cette dernière descente, hein, Jérôme parlait des descentes, il y a la dernière descente avant l'arrivée finale, Cyril, où là certains qui ne sont pas réputés pour être de grands descendeurs pourraient perdre non pas toute chance et tout espoir de s'imposer à Paris, mais pourraient perdre quelques précieuses secondes. On pense à Thibaut Pinot ou à d'autres, hein.
Oui, tout à fait. Mais je pense que la configuration actuelle de la course, surprenante d'ailleurs, parce que personne n'avait imaginé des coureurs prenant 15 minutes. On a perdu, il y a longtemps qu'on a perdu cette habitude. Et ce qui me trouble, moi, c'est qu'à aucun moment, alors que sur le parcours que nous avons fait, il y a des portions avec du pourcentage, mais c'est des portions que passe Sagan. D'autant qu'il y avait les descentes derrière sur lesquelles, même s'il était un petit peu en difficulté, il pouvait rentrer. Or, à aucun moment, l'équipe Tinkoff n'a essayé de contrecarrer l'échappée pour éventuellement garder le maillot. Et j'ai plutôt le sentiment, moi, que non seulement ils n'avaient pas envie de garder le maillot, ou tout du moins de ne rien faire pour, parce que Contador n'est pas bien, et qu'en laissant partir un coup de très loin, ça inhibait un petit peu les activités belliqueuses de ceux qui cherchaient à prendre le maillot, provoquant ainsi peut-être une bagarre pour le classement général. Donc j'ai l'impression qu'on a un petit peu endormi tout notre monde.
Ah, il est fort en tactique, le druide, quand même. Hein. Il est pas mal. Peter Sagan, Lionel, qui aura du mal à conserver son maillot jaune, là, avec ouais, 13 minutes d'avance, c'est quasiment râpé déjà. Hein.
Ouais, étant donné la configuration de la course, ça paraît râpé. Mais nous, on y croyait assez fort à Sagan, en fait. Aujourd'hui, complètement transcendé par le maillot jaune, avec le réservoir plein et complètement relâché, on se disait qu'il allait passer et que le final finalement pouvait servir ses plans pour une victoire d'étape. Ouais.
C'est beaucoup trop dur, Lionel, honnêtement. Le pas de Pérol, le col du Pertus loin dans la foulée, les pentes sont tellement raides. Si effectivement ça passe limite en transition, d'accord, mais s'il y a ne serait-ce qu'un bout de bagarre, normalement Sagan saute. Hein.
Vous allez voir, il y aura quand même une explication entre certains outsiders. Moi, je vois bien Romain Bardet sur le final essayer d'en mettre une. Il est chez lui, Romain, il est pas loin. Oui. C'est le coureur qui a le plus de supporters sur le bord de la route. Après, Jean-Jacques Bourdin, ce qu'on nous a demandé beaucoup, où était Jean-Jacques Bourdin.
Et Gitlay aussi, tu sais, ça c'est
un peu plus, Jean-Jacques. Mais ces coureurs-là vont demander, ces coureurs-là vont passer à l'action. Et moi, je pense que de toute façon, Sagan aurait pété. C'est trop long pour lui, trop long, trop raide.
Je suis d'accord.
Mais qu'est-ce qui est trop long pour lui? Les parties dures où on a plus de 8-10%, c'est 2 km.
Mais si Bardet flingue, si Pinot relaie derrière, Sagan va forcément sauter, messieurs.
Non, mais arrêtez de rêver. Déjà, personne n'avait rêvé l'étape telle qu'elle se déroule aujourd'hui. Alors, n'en refaisons pas un scénario pour lequel on ne maîtrise rien.
D'accord, on en reparle dans 2 heures, messieurs. Super.
Eh ben oui, mais on est là pour ça.
Si Sagan suit les meilleurs aujourd'hui, alors on aura des regrets. Mais moi, je peux vous dire que Sagan, il n'arrivera pas dans le groupe.
Mais ça n'attaquera pas dans l'avant-dernier col. C'est le seul endroit où il peut sauter. Dans Paris, il peut pas sauter.
Nous verrons.
Rien ne va. Et il avait 15 km pour rentrer derrière. Et c'est un grand descendant.
Sagan va-t-il sauter aujourd'hui? Les avis sont partagés dans l'équipe de l'Intégral Tour. Merci Lionel d'être venu participer à notre petit débat. Évidemment, tous les meilleurs papiers de la presse écrite sont à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France tous les matins.
Hein, ouais, avec humilité. Hein,
tu peux pas le dire toi, mais moi je peux le dire. Merci Lionel en tous les cas d'être venu dans le petit camion.
Salut à vous, bonne fin d'étape.
Tous les jours vers 15h45 pour parler de notre petit débat du jour. En tous les cas, vous l'avez compris, tout ça est très animé. Tiens, on va aller faire un tour sur la moto RMC puisque Georges est à l'avant de la course. Et que, ça flingue pour aller chercher les points de la montagne, Georges.
Exactement, au sommet du col de Nérone, et c'est Thomas Degent qui, comme tout à l'heure, est allé chercher les points devant Greg Van Avermaet. Degent qui était déjà passé en tête en haut de la côte du Puy-Saint-Marie, et donc sur ce sommet de troisième catégorie, le col de Nérone, c'est lui qui est allé prendre les points. Descente très rapide, sinueuse dans quelques instants pour les coureurs de tête, et on va très rapidement aller attraper le pied du Pas de Pérol, donc ascension de deuxième catégorie dans quelques instants.
Merci Georges sur la moto RMC, 15h51, on va se quitter quelques instants. Non, on va rester ensemble, les infos ce sera dans 5 minutes. Fred, donc trois hommes en tête qui se disputent évidemment les points de la montagne. On le rappelle, si les choses en restent là, il y aura un changement de leader au classement général ce soir. Et a priori, ce pourrait être le Belge Van Avermaet qui s'emparerait du maillot jaune.
Et là encore, on est en train de tirer des plans sur la comète parce qu'il reste 4 difficultés, dont 2 redoutables. Le col du Pertus notamment, et le Pas de Pérol, le Pas de Pérol qui est aussi dénommé le Puy-Marie. C'est un volcan que les coureurs escaladeront tout à l'heure, et là Greg Van Avermaet, lui qui est davantage un puncher, un spécialiste de classique flandrienne en Belgique, aura bien du mal à passer avec les meilleurs. Alors est-ce que Van Avermaet va jouer sur sa classe naturelle et sur sa fraîcheur pour réussir à rallier le Lioran ici, terme de cette cinquième étape, avec les meilleurs? Dans ce cas-là, bien sûr, il endosserait le maillot jaune, mais il reste beaucoup de pain sur la planche, et Greg Van Avermaet, malgré toute sa classe, tout son talent, aura bien du mal aujourd'hui à faire jeu égal avec les meilleurs grimpeurs. Parmi le trio de tête, c'est donc Thomas Degen qui est passé en tête au col de Nérone, et Thomas Degen semble a priori meilleur grimpeur que Greg Van Avermaet. C'est peut-être lui lui, le Belge de la Lotto Soudal, le meilleur grimpeur du jour, Thomas De Gendt, qui, il y a 4 ans, avait remporté une étape du Tour d'Italie en haute montagne, au Stelvio. Il avait alors porté le maillot rose. C'est pas n'importe qui, Thomas De Gendt, homme à tout faire de la Lotto Soudal, mais aussi capable de briller en haute montagne.
Très bien. Cette petite image que vient de me montrer Jérôme Pinault, faite ce matin au village départ, entre deux champions au gabarit bien différent. Nous avons là Frédéric Weiss, qui était notre invité hier soir dans le camion, l'ancien pivot de l'équipe de France de basket et du CSP Limoges, 2m17 je crois.
C'est bien ça, oui.
Et à côté de lui, Brian Coquard,
Thomas Vauclair.
Ah, c'est Thomas Vauclair, je crois que c'était,
je vous la mets sur l'RMC Live, elle est magnifique.
On a l'impression que c'est son petit garçon. Il y a quoi, 1 mètre de différence quasiment entre les deux.
Pas loin.
Tiens, voilà, vous pouvez la retrouver sur le hashtag RMC Live dans quelques instants. Jérôme va la mettre. Fred, oui.
Vous parlez de Thomas Vauclair, de Brian Coquard. Sachez que Brian Coquard est en train de souffrir à l'arrière du peloton. Il est décroché en ce moment dans le col de Nérol. On n'est pas d'accord, Cyril. A priori, Brian Coquard a décidé de faire l'impasse sur cette étape. Pas de problème pour les délais. La tête de course est à 40 km de l'arrivée. Le peloton, lui, à 45, puisque, on le rappelle, le trio tête Van Avermaet, De Gendt et Grifo compte 12 minutes d'avance sur le peloton. Brian Coquard, après ses efforts des 4 derniers jours, a décidé de laisser filer aujourd'hui.
Ok, dans un instant, on va vous donner les noms de l'épisode du jour, mais auparavant, nous faisons un nouveau détour par Wimbledon. Eric Salio avec les quarts de finale au programme aujourd'hui.
Oui, un Roger Federer qui était il y a quelques minutes vraiment dos au mur, mais il va peut-être réussir à remporter cette troisième manche. Je rappelle qu'il est mené 2-7-0 par Marin Cilic, 7-6-6-4. Il a sauvé 3 balles de break d'affilée il y a quelques minutes, et là il sert pour le 7, il sert pour revenir à 2 manches à 1, 5-3, 40-30 pour le Suisse. Je vous dis ça dans quelques secondes, le temps de vous dire que sur le court numéro 1, eh bien c'est Miloš Raonic qui mène 2 manches à 0, 6-4, 7-5, 5-4 dans le troisième, et 2-7-1 à l'instant. Federer revient dans la course.
Merci Eric, à tout à l'heure pour l'entrée en lice des champions français, des tennismen français Lucas Pouille et Joe Wilfried Tsonga, qui vont tenter eux aussi d'aller décrocher une place dans le dernier carré de Wimbledon. 39 km de l'arrivée de cette cinquième étape, 11 minutes 48 au dernier pointage entre les troisièmes de tête et l'avant-garde du peloton. Le peloton emmené désormais par les coéquipiers de Quintana et de Valverde. Les Sky sont en deuxième rideau. Il va peut-être se passer des choses, on l'espère en tous les cas, pour le classement général, parce que pour la victoire d'étape, c'est quasiment fait pour l'un des trois. A tout de suite, juste après les infos de 16h.